Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Question politique à la veille d'une semaine importante pour la majorité. Mercredi, le Premier ministre prononcera un nouveau discours de politique générale. Édouard Philippe doit expliquer ce que sera la mise en œuvre de l'acte 2 du quinquennat. L'occasion pour les troupes de la majorité à l'Assemblée de se compter. L'occasion aussi de clarifier ce qu'est le macronisme. Et si nous assistions à la fin du « en même temps », La République En Marche est-elle le nouveau nom de la droite française ? Et le divorce est-il définitivement consommé entre le président de la République et les classes populaires ? Nous poserons ces questions à notre invité. Il occupe un poste clé de la majorité. Député de Paris et, je vous le disais, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre s'est installé dans le studio de questions politiques et il est avec nous jusqu'à 13h. Intervenez sur l'appli France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag #QuestionPol.
France Inter, questions politiques, Ali Badou.
Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de questions politiques, Jeff Wittemberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, Gilles Legendre. Est-ce que vous avez répété la standing ovation en 2017? Elle avait duré une grosse minute après le discours de politique générale d'Édouard Philippe.
Alors, vous faites bien de me le rappeler parce que j'avais oublié le chronomètre. Mais la standing ovation...
J'ai calculé hier.
Eh ben, je vous fais totalement confiance. C'est en effet un vote de confiance. Et évidemment, la majorité donnera son entière confiance au Premier ministre mercredi après-midi.
Donc, vous êtes prêt à faire la claque.
La majorité, qu'est-ce que c'est que la majorité aujourd'hui et pourquoi ce vote de confiance justement ? Est-ce que c'est pour montrer qu'il y a un élargissement ou pour montrer qu'il faut être tous derrière pour être investi au municipal ?
Alors,
c'est quoi le sens ?
À l'Assemblée, la majorité, c'est très clair. C'est la somme du Modem, de La République En Marche et peut-être d'autres députés qui ont fait la route avec nous au moment des européennes. Je veux penser aux députés d'agir. Mais c'est à eux de déterminer leur vote. Je ne parle pas en leur nom. La confiance, c'est quelque chose de réciproque. Certes, la majorité va accorder sa confiance au Premier ministre, et à travers lui, évidemment, au président de la République, et évidemment, le Premier ministre va faire confiance à sa majorité. C'est quelque chose de réciproque, la confiance.
Mais vous allez observer aussi ce qui va se passer sur les rangs juste à côté, à droite, on imagine,
oui,
ce qui se passe en ce moment.
J'observe tout et toujours, mais au jour d'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est ce que va dire le Premier ministre.
On va y venir.
D'ailleurs, nous en discutons régulièrement, j'ai encore un rendez-vous téléphonique avec lui cet après-midi, et il ne fait pas de doute que la majorité lui accordera la confiance pour une raison très simple. Il y a deux choses importantes aujourd'hui pour le Premier ministre. C'est de fixer une feuille de route précise à partir des annonces qui avaient été faites par le président de la République lors de sa conférence de presse du 25 avril, à l'issue, à la fin, pouvons-nous dire, du grand débat national. Nous connaissons les grandes lignes. Maintenant, il faut les transformer en quelque chose de concret, d'opérationnel.
Calendrier politique que tout le monde comprenne.
Voilà.
Et comme il y a déjà un embouteillage de textes à l'Assemblée, définir les priorités.
Exactement. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais derrière, ce que nous attendons du Premier ministre, et je n'ai pas de doute sur le fait qu'il nous rassurera là-dessus, c'est qu'il rassemble.
Mais vous ne répondez pas à la question.
Qu'il rassemble notre majorité, qu'il rassemble La République En Marche autour d'un positionnement, d'un cap politique.
Vous allez vous
compter, extrêmement
mais répondez à Karine.
Voilà, vous ne répondez pas à ma question.
Si.
Ma question, c'est,
vous dites
qu'il parle à la majorité, mais est-ce qu'il va parler également à la droite, en fait, à l'occasion de ce discours de politique générale ?
Attendez, il parle aux 560 députés qui seront assis sur les bancs de l'hémicycle mercredi. Ça, c'est une évidence. Il respecte et nous respectons nos oppositions. Mais il vient présenter le programme que la majorité va être amenée à voter, à soutenir et à enrichir au cours des semaines et des mois qui viennent.
Pourquoi ce n'est pas le président lui-même, comme il l'avait annoncé au début de son quinquennat, qui s'exprime devant le Congrès ? On n'a pas bien compris ce changement de pied. Est-ce que vous le regrettez, en tout cas, vous ?
Ça n'a pas la même portée. Et d'ailleurs, les deux exercices sont de nature très différente. Les discours devant le Congrès, c'est pour porter un cap, pour définir un cap.
Ça devait avoir lieu tous les ans.
Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes privés d'un cap ? Non. Nous avons débattu pendant 3 mois, le président prenant d'ailleurs sa grande part du débat. Nous avons eu le grand débat national, nous avons eu la restitution du grand débat national, nous avons eu une prise de parole longue, concrète et complète du président de la République lors de sa conférence de presse devant vous le 25 avril, le cap, nous l'avons. Maintenant, nous sommes dans une phase opérationnelle. Par quoi commençons-nous? Quels sont les projets que nous allons être amenés à débattre? Sur quel positionnement et avec quel calendrier?
Donc, en gros, jusqu'au municipal. La confiance avec vous?
Mais attendez, je ne suis pas président du groupe UDI. J'ai bien assez à faire avec le groupe La République En Marche. Et interrogez Jean-Christophe Lagarde et il vous répondra.
Non mais dites-nous.
Mais je n'en sais rien, Ali Badou.
Bah, vous savez ce que fera Agir. Non mais attendez, savoir ce que
moi je m'occupe de mon groupe.
C'est vous qui parlez d'Agir, donc d'autres groupes que le vôtre.
Pour vous répondre précisément, je vous parle d'Agir parce que Agir a été notre allié pendant les européennes. Ce qui n'était pas le cas, ça ne vous a pas échappé de Jean-Christophe Lagarde.
Françoise.
Alors on va voir un Premier ministre en majesté, vous lui dites il faut qu'il rassemble. Est-ce qu'il y a des états d'âme au sein du groupe? Parce qu'au fond, Édouard Philippe vient de la droite, il est à la manœuvre aujourd'hui pour débaucher des élus de droite. Est-ce qu'il y a un déséquilibre au sein du groupe? Est-ce que vous sentez que l'aile gauche est tique et se dit mais c'est plus exactement le centre de gravité qu'on avait avant?
Alors, je crois exactement le contraire. Je crois que le groupe, aujourd'hui, est le lieu où s'expriment le mieux les équilibres d'En Marche. Ça n'est pas facile tous les jours.
Démontrer, parce que ça n'est pas, c'est pas
non,
évident.
Non, on vous demande des signaux. Attendez, resituons ça dans un cadre plus large. À l'évidence, depuis les européennes et à cause des européennes, nous sommes à la veille d'un nouvel acte de recomposition politique, avec une ampleur probablement aussi importante que celle que nous avions observée en 2017, avec des résultats peut-être moins spectaculaires. Nous ne sommes pas en train d'élire un nouveau président de la République, mais cette recomposition, elle est à l'œuvre. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Pendant ces travaux, le groupe continue. Mais ça, c'est ce que ça veut absolument... dire. Attendez.
Françoise sourit parce que...
Elle sourit, mais je comprends.
Parce qu'elle doit être perplexe
aujourd'hui,
comme nous, on ne comprend pas
ce ma responsabilité... c'est de faire précisément que le groupe soit sanctuarisé et puisse continuer de travailler, ce qui ne veut pas dire qu'il se désintéresse de ce qui se passe autour. Mais
Non, mais vous n'avez pas répondu à Françoise Fraisseau, je ne comprends rien.
Oui. Qu'est-ce que ça veut dire sanctuariser un groupe? Non, mais sanctuariser un groupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter que ça explose?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le groupe qui incarne le mieux les équilibres, je le reconnais, complexe, d'En Marche. C'est-à-dire avec des sensibilités différentes, certaines venant de la droite, certaines venant de la gauche, certaines venant du centre, et certaines n'ayant pas eu auparavant des engagements politiques marqués. Cette alchimie d'En Marche, elle se réalise tous les jours dans le groupe. Et, sans mauvais jeu de mots, ça marche. Depuis 2 ans, les projets de loi sont votés, les majorités sont accordées massivement dès que le Premier ministre la sollicite. Ça s'est produit 2 ou 3 fois depuis le début du quinquennat et ça fonctionne. Je ne dis pas que c'est facile. Faire vivre cet ensemble, ce manteau d'Arlequin, c'est très compliqué. C'est ce qui fait le sens même de la politique d'En Marche, l'originalité de l'offre politique que nous avons proposée aux Français.
En même temps, en permanence.
Mais bien sûr, et je sais que c'est l'intention du Premier ministre mercredi de réaffirmer cet équilibre qui est fondamental.
Mais après, Gilles Legendre.
Oui.
Écoutez-moi. L'heure n'est plus au en même temps.
Si.
Fermez les guillemets. C'est Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, qui l'affirme cette semaine dans le magazine Le Point. Il dit qu'il faut une politique en direction des Français les plus modestes. La République en marche ne doit pas devenir, et c'est une manière de dire qu'elle l'est déjà devenue, le parti des bourgeois, des élites, sans le soutien des classes populaires.
Alors, sur la fin du en même temps, je m'inscris totalement en faux. Sur l'idée que notre politique doit être beaucoup mieux comprise par justement les classes populaires, c'est vrai.
C'est toujours un problème de pédagogie.
Les classes populaires ne comprennent pas. Vous savez, c'est pas que de la pédagogie. Depuis la crise des Gilets jaunes, nous avons mené une politique active de pouvoir d'achat et qui porte ses fruits. Alors, puisque cette année, le pouvoir d'achat va augmenter dans des proportions comme jamais il ne l'avait fait depuis 15 ans. 850 euros en moyenne par Français sur l'année. Ça, c'est du concret. Et ça bénéficiera en priorité aux populations les plus fragiles.
Monsieur Legendre, pourquoi alors certains députés de, entre guillemets, l'aile gauche de votre parti vous demandent d'envoyer des signaux à la gauche? Pourquoi certains disent que vous êtes en train de vous transformer en nouvelle UDF? Je cite des députés qui parlent donc de ces signaux qu'ils attendent, Barbara Pompili, Aurélien Taché, pour ne pas les nommer. Donc ils ne comprennent rien à ce que vous dites?
Non. Attendez, d'abord, c'est pas qu'ils comprennent rien, on est en discussion permanente.
Oui, mais c'est quoi les signaux?
Ça se passe très bien, notamment avec les deux personnes que vous venez de citer. Non, je comprends parfaitement.
Concrètement.
Non, mais attendez, mettez-vous 2 minutes à la place des intéressés. Ils sont venus dans un mouvement incarnant des sensibilités propres, qui sont parfois très marquées, des engagements. Et nous sommes en train de construire une politique entièrement nouvelle. S'ils s'y reconnaissent. Mais vous n'allez pas parler à ma place,
Ali Badou. Ils attendent des signaux.
Non. Mais attendez.
Alors, soyez sincères.
Mais je suis parfaitement sincère. Ils s'y reconnaissent parfaitement. La construction de cette offre, la construction de cette offre politique, c'est une construction permanente. C'est vrai que depuis dimanche, il y a 15 jours, les signaux sont surtout venus de la droite. C'est un fait. C'est un fait d'ailleurs électoral qui s'est retrouvé dans toutes les analyses des résultats des européennes. Est-ce que pour autant ça déséquilibre la politique que nous allons mener et dont nous aurons les données extrêmement précises mercredi? La réponse est non.
Karine,
Gilles Legendre, posons-nous quand même 2 minutes. Est-ce que la nature même de la politique d'Emmanuel Macron, est-ce que la nature même de la politique de la majorité, mais vraiment dans son ensemble, c'est-à-dire Emmanuel Macron, le gouvernement, ce que vous incarnez effectivement à l'Assemblée, est-ce que finalement ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué en 2 ans de pouvoir? Ça pourrait paraître tout à fait logique. Ce qu'on observe malgré tout, c'est que vous êtes élu plutôt avec le centre-gauche, que progressivement, sous l'effet du pouvoir, vous êtes passé plutôt de centre-droit. Et aujourd'hui, vous observez de plus en plus et vous essayez de vous verdir. Il y a quand même de quoi y perdre son latin. Vous avez complètement changé de nature de politique.
Absolument pas. Et d'ailleurs, vous allez voir mercredi, sans préjuger des annonces du Premier ministre, qui lui appartiennent, qu'il y aura beaucoup d'éléments de continuité. Et les éléments de continuité, ce ne sont pas des éléments de droite ou de gauche. Quand nous continuons ardemment la politique de lutte contre le chômage, dont je vous signale au passage qu'elle commence à porter ses fruits, qui sont insuffisamment soulignés. Quand nous allons réformer l'assurance chômage, en essayant de faire en sorte qu'on facilite le retour à l'emploi.
Rien ne va changer alors qu'on parle d'acte 2 du quinquennat et qu'on est sorti de 6 mois d'une crise sociale inédite.
Attendez, les choses, Ali Badou, ayez quand même l'honnêteté de reconnaître que les choses ont commencé à changer. Nous en sommes déjà à près de 17 milliards de distribution de pouvoir d'achat. Ça n'est pas rien, et c'est pas 17 milliards qu'on a donné aux riches. C'est 17 milliards qu'on a donné aux populations.
Gérald Darmanin, c'est lui qui dit que...
C'est 17 milliards qu'on a donné aux populations les plus fragiles. Vous n'arriverez pas à semer le trouble entre Gérald Darmanin et moi. N'essayez
pas. Non, mais en l'occurrence, il ne fait qu'analyser les résultats des européennes pour constater que la rupture avec les classes populaires s'est installée.
Alors attendez, vous voulez... Non, attendez, je vous réponds à Ali Badou. Il y a des choses qui ont changé et qui vont changer. Il y a une première chose qui va changer, c'est la manière dont précisément on transforme le pays. Nous avons trop transformé le pays pendant les 2 ans en y associant insuffisamment les Français. Nous devons continuer de transformer le pays pour les Français, et ça a été le cas à la première heure. Nous devons le faire avec eux. Et je pense qu'il y aura des messages très forts dans le discours du Premier ministre dans ce sens. Et puis, il y a une deuxième chose qui a changé. Et ça, je le reconnais. Et je l'assume. C'est la révolution écologique. C'est vrai que sur ce point, les Français unanimes, quelle que soit leur sensibilité politique, nous disent il faut aller plus vite, plus fort, plus profond. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est la seule valeur qui permet aux Français désenchantés, désabusés, défiants vis-à-vis de la politique, de retrouver une forme d'espoir. Et cette forme d'espoir, n'avons pas le droit de la trahir. Comme Nicolas Hulot, comme beaucoup d'autres.
C'est pour ça que le président de la République n'a pas prononcé le mot d'écologie quand il a fait cette conférence de presse et qu'il faisait son allocution liminaire qui a duré près d'une heure, où il a abordé tous les sujets, sauf celui-là. Françoise.
Redéfinissez le macronisme au bout de 2 ans. Dites-nous ce que c'est.
D'abord, le macronisme, c'est quelque chose qui prend en compte les bouleversements du monde. Je considère que, par exemple, l'effondrement de la droite aujourd'hui et l'effondrement du Parti socialiste, c'est d'avoir été dans le déni pendant des décennies sur les transformations brutales et les fractures qu'elles opéraient dans le pays. Fracture sociale, fracture territoriale, fracture écologique, fracture numérique. Nous acceptons, nous assumons que nous sommes dans un monde en profonde mutation et nous allons chercher les solutions concrètes en nous affranchissant, en effet, des a priori idéologiques. La deuxième dimension du macronisme, c'est de faire en sorte que les Français, nos concitoyens, puissent retrouver un espoir et la maîtrise de leur destin. Cela passe notamment par une réinvention du modèle de protection sociale qui ne soit plus simplement des protections formelles, comme ça a été trop souvent le cas, alors même qu'elles coûtaient de plus en plus cher.
C'est le nouveau nom de la droite.
Mais des protections réelles. Pardon ?
C'est le nouveau nom de la droite, le macronisme ? C'est
un synonyme ? En aucun cas, Libadou. Ça vous ferait trop plaisir.
Non, mais pas du tout.
Mais
Emmanuel
c'est faux.
Mignon.
C'est
Emmanuel Mignon, Gilles Legendre, ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy. C'était le cerveau de Nicolas Sarkozy pendant la campagne de 2007.
Bon, je pense que le cerveau de Nicolas Sarkozy lui suffit à lui-même.
Son programme électoral, pour le coup. Et voilà ce qu'elle déclare. Emmanuel Macron est le meilleur président de droite qu'on ait eu depuis longtemps.
Il y aura toutes les instrumentalisations possibles dans la période que nous vivons. Ce que je vous dis, c'est que nous, La République En Marche, nous ne sommes pas un parti de droite, nous ne sommes pas un parti de gauche, nous ne sommes pas un parti de attrape-tout, et nous refusons, et je le dis avec solennité, je le dis avec beaucoup de solennité, nous sommes totalement étrangers à toute forme de racolage. Racolage passif ou racolage actif.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ce que je veux dire, c'est que en aucun cas, nous ne trahirons nos idéaux, ce qui fait le socle de l'engagement de chacun d'entre nous pour élargir la base.
Enfin, en attendant, pourquoi 72 maires et élus viennent nous rejoindre.
Mais Alibadou, c'est pas nous qui sommes allés les chercher. Vous savez qui est allé les chercher?
Sébastien Lecornu.
Non.
Si.
Non.
Si.
Non.
Si.
Vous avez tort.
Si, il a lancé un appel.
Ce sont leurs électeurs qui sont allés les chercher.
Mais il a été le porte-parole.
Il y a maintenant en France un mouvement profond chez nos concitoyens qui considèrent qu'en effet, il faut que nous allions chercher les vraies et les bonnes solutions à leurs problèmes. Et qui ont compris que même si nous
sommes maires de gauche qui ont signé une tribune pour soutenir Emmanuel Macron.
Si nous sommes encore loin de l'objectif, et nous le reconnaissons avec la plus grande humilité, ils ont compris que c'était notre objectif. Et ils veulent que leurs élus, par ailleurs, cela met un point final au procès assez illégitime, mais que nous avons entendu, qui a été adressé au macronisme pendant les deux premières années sur l'idée que nous serions hors sol, coupés des territoires, coupés des élus. Il est vrai que nous n'en avions pas, des élus locaux. Par construction, nous n'existions pas avant. Cette chose est en train de tourner. Elle a été tournée notamment à partir des engagements qu'a pris le président de la République lors de sa conférence de presse et que le Premier ministre va très probablement rendre beaucoup plus concret encore l'ensemble discours sur la décentralisation et sur la déconcentration.
Il aura fallu pour ça une énorme crise politique, la crise des Gilets jaunes.
Ah, ben pour une fois, on va être d'accord. C'est vrai. Mais non, mais attendez, je ne souris pas. La crise des Gilets jaunes, ça a été une alerte majeure dans notre pays et une alerte qui nous était adressée. Et nous aurions pu la nier et nous aurions pu attendre que ça se passe. Et nous aurions pu attendre.
Ça aurait été un peu compliqué de la nier.
Oui, non, mais attendez. Oh là là, ça n'aurait pas gêné d'autres forces politiques dans le passé. Nous l'avons assumé. Et nous avons essayé de la purger. Ça n'est d'ailleurs pas terminé. Mais le grand débat a été parfaitement la reconnaissance par le président de la République, par le gouvernement, par la majorité, que nous ne pouvions pas faire comme si de rien n'était.
Bon, revenons au 9 juin 2019. Jeff.
Juste un mot, justement, sur la recomposition. Vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez, on est au début peut-être d'une profonde recomposition comme après 2017. Je voudrais une réponse franche, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes satisfait de voir le Parti des Républicains dans l'état où il est aujourd'hui? Est-ce que vous avez un intérêt à ce que la droite traditionnelle, telle qu'elle est représentée, disparaisse, qu'il n'y ait plus rien entre votre parti et le Rassemblement National?
Je ne parlerai jamais comme ça de mes adversaires politiques quand ils sont
en
difficulté.
Quel est votre sentiment, alors?
Je considère qu'aujourd'hui, ceux qui ont le dernier mot, ce sont nos concitoyens. Et que les bouleversements actuels, ils viennent d'une volonté de nos concitoyens de poursuivre la recomposition politique amorcée en 2017.
Il faut qu'il y ait un parti de droite, monsieur Legendre.
Encore une question,
est-ce qu'il faut qu'il y ait un parti de droite?
Ça n'est pas à moi de répondre à ce genre de questions.
Est-ce que c'est pas la
Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que de plus en plus de Français se retrouvent dans la politique que nous menons, que cette politique donne des résultats qui récompensent cet engagement et qui conforte les Français dans l'idée qu'ils sont gouvernés comme ils n'avaient jamais été gouvernés dans le passé. C'est le seul enjeu pour moi. Et ensuite, les grosses propositions se feront. Il y aura évidemment des oppositions. Il est même sain qu'il y en ait. Il est même sain qu'elles soient fortes. Mais aujourd'hui, notre objectif à nous n'est pas d'être le sorte de docteur Faust de la politique française, à vouloir créer nos propres alliés, nos propres ennemis, nos propres oppositions, à en juger. Notre but, notre objectif, c'est de gouverner et de continuer la transformation du pays en tenant compte des messages que nous ont envoyés les Français.
Avouez que c'est quand même intéressant, puisque quand vous parlez des électeurs, quand on regarde votre circonscription, celle où vous êtes élu à Paris, c'était l'ancienne circonscription de François Fillon, c'est une circonscription qui est composée de quartiers parmi les plus chics de la capitale et de France. Ils votaient à droite, ils ont voté pour vous aux législatives et aux européennes, ils ont largement voté pour La République En Marche avec des scores absolument spectaculaires. Ceux qui votaient pour la droite, les grands bourgeois, votent aujourd'hui pour La République En Marche. On peut dire ça simplement, Gilles Lejeune.
Alors, factuellement, vous n'avez pas tort, mais cela prouve bien.
C'est pas de votre faute.
Mais attendez, j'en suis très fier. Vous n'allez pas me dire
que 40% des ouvriers et 27% des employés ont voté Rassemblement National.
Moi, ce que je vois, c'est que la recomposition est en route et c'est normal qu'elle affecte l'ensemble des forces politiques.
Cette recomposition, vous l'organisez comment malgré tout? Parce qu'il y a les marcheurs de la première heure, il y a La République En Marche et puis il y a tous ceux qui arrivent maintenant. On parle beaucoup d'une confédération. Ça vous semble être, par exemple, une idée intéressante, agglomérée en fait?
Alors, deux éléments de réponse. La première, c'est que ça n'est pas au président de groupe d'être à la manœuvre sur ces choses-là.
Vous avez le droit d'avoir des idées.
Non, j'ai le droit d'avoir des idées. Il m'arrive même, Karine Bécart, que j'en ai.
Mais
c'est au mouvement de mener ça et je fais totalement confiance à mon ami Stanislas Guérini pour conduire ce travail-là. Ce dont je suis certain, à titre personnel et comme une conviction, et qui porte loin cette conviction, c'est que le temps n'est plus aux majorités écrasantes et dominatrices. L'époque plaide pour des coalitions.
Oula.
Et je le dis d'une façon générale. Et c'est un avis, je m'empresse de le dire, personnel. J'accepterais parfaitement qu'il soit contesté par d'autres responsables de la majorité. L'époque est une époque qui se construit sur du dialogue, sur des compromis, sur des échanges. Paradoxalement, une majorité au Parlement sera plus forte dans le cadre d'une coalition qu'elle ne le
vous
sera.
Vous vous rendez compte de ce que vous dites là?
Non, je ne me rends pas compte.
Vous êtes en train de dire,
laissez François terminer, mais je lui laisse volontiers la parole.
Oui.
Comment vous faites pour organiser cette coalition?
On passe ensuite au portrait.
Alors qu'au fond, toute la philosophie de Macron, c'était au contraire de dire il faut un parti à la fois et en même temps, mais qui est quand même une colonne vertébrale et qu'on puisse aller vite.
Mais c'est exactement. Mais ça n'empêche pas.
Mais non, si la coalition, faut discuter.
Je suis pas en train de rendre.
Mais
attendez, ne vous méprenez pas
sur
ce que je dis. Je ne suis pas du tout en train de considérer que la République En Marche doit s'affaiblir. Je dis juste que le sens de l'histoire, mais sur plusieurs années, ça sera la coalition. Et quand nous plaidons.
Mais vous êtes à la tête d'un groupe pléthorique.
Et quand nous plaidons.
Pour la proportionnelle.
Oui. Nous savons que nous sommes prêts à assumer cette culture-là. La Ve République a toujours été construite sur l'inverse. On disait, ah là là, mon Dieu, s'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement, ça sera l'instabilité de la Ve République. Aujourd'hui, je considère que la construction, les défis politiques qui nous attendent, passe par de très larges rassemblements. Mais ces rassemblements peuvent se faire autour d'une épine dorsale, d'une colonne vertébrale puissante. Et dans le schéma que nous sommes en train de construire, aucun d'entre nous n'est prêt à abdiquer l'ambition d'En Marche d'être cette colonne vertébrale.
Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est le cours de l'histoire. Vous allez connaître des défaites électorales et du coup, vous serez moins nombreux et vous devrez effectivement composer
voilà,
avec d'autres.
Je reconnais l'optimisme chevronné, chevillé au corps d'Ali Badou.
Le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, est l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Votre portrait signé Karine Bécart.
Gilles Legendre, rien ne vous prédestinait à devenir le chef de la majorité. Jamais vous n'aviez imaginé être auprès du président, auprès du chef du gouvernement, à occuper un tel poste clé. Un poste très exposé, qui suppose d'accepter d'être souvent contesté, voire vertement critiqué, par vos propres députés, dont il vous faut calmer les ambitions et gérer les frustrations. Donc, rien ne vous y prédestinait, même si la politique, Gilles Legendre, vous a très tôt titillé. À 16 ans, pour la campagne présidentielle de VGE, Valéry Giscard d'Estaing, vous étiez déjà totalement mobilisé. De là plus tard à faire carrière, à vous lancer, non, ça vous a semblé un petit peu trop risqué. Alors, il vous a fallu patienter 42 ans pour retrouver dans le macronisme ce giscardisme qui vous avait tant plu. Vous êtes devenu un marcheur de la première heure. Et voilà comment l'ancien journaliste économique, devenu chef d'entreprise, s'est battu face à Nathalie Kosciusko-Morizet pour décrocher un siège de député.
Je considère que les électeurs n'appartiennent à personne, ce que je n'entends pas toujours dans la bouche de mon adversaire. Quand ils viennent voter En Marche, ils n'abandonnent pas ni leurs valeurs, ni leur culture, ni leur sociologie politique.
6 jours après, Gilles Legendre, le 18 juin 2017, il y a presque 2 ans précisément, vous êtes élu député de Paris. Et tout, pour vous, va s'enchaîner très vite. Parce qu'à 59 ans, finalement, le ton calme est posé et l'expérience aidant, vous dégagez une assurance que n'ont probablement pas tous les novices de la vie politique. En tout cas, vous devenez tout de suite le vice-président du groupe de la majorité, aux côtés de Richard Ferrand. Et quand il montera au perchoir de l'Assemblée, c'est vous, Gilles Legendre, qui allez lui succéder. Ce qui ne vous empêche pas de déraper parfois, en vous estimant notamment, je vous cite, trop subtil et trop intelligent, ou en vous en prenant plus récemment à l'âge de départ à la retraite et par là même au chef du gouvernement.
Je l'ai dit très amicalement au Premier ministre, ce n'était pas absolument indispensable d'ouvrir ce débat-là.
Le style est délicieusement suranné. Le problème, Gilles Legendre, c'est que Matignon n'a pas franchement apprécié. Sans compter qu'au sein du groupe des députés, vous ne faites pas non plus l'unanimité. Autrement dit, votre renouvellement à la tête de la majorité qui aura lieu avant ou après l'été et que vous souhaitez est loin pour l'instant d'être gagné.
Réaction Gilles Legendre.
Alors, sur le Premier ministre et la question des retraites, je pense que les choses ont été extrêmement bien clarifiées entre nous. Il n'est pas anormal que de temps en temps, il y ait des différences entre le Premier ministre et le chef du parti majoritaire. Si ça se fait dans un climat de confiance, ça ne présente pas de trop grandes difficultés.
Vous êtes fait assez sèchement recadré quand même sur ce...
C'est normal, même devant le groupe de la majorité. Quelque chose qui ne lui plaisait pas, mais est-ce que c'est pour autant que j'avais tort de l'avoir dit? C'est une autre chose, une autre
ça
chose.
Ça ne vous empêchera pas de l'applaudir et de vous lever demain.
Mais plus que ça,
à la fin de sa déclaration politique générale.
Entre le Premier ministre et moi personnellement, et là je ne parle pas que du groupe, il y a un très bon climat de confiance. Sur la question du renouvellement, je ne suis pas sûr que ça passionne nos auditeurs, et sur la question du fait de faire l'unanimité, je vous mets au défi, Karine Bécard, de trouver un président de groupe majoritaire dans l'histoire de la Ve République qui ait fait l'unanimité. C'est impossible. Et c'est encore plus compliqué pour les raisons que nous avons abordées depuis le début de cette émission au sein d'un groupe aussi divers et aussi composite. Ça n'est pas le sujet. Je n'ai pas accepté cette mission et cette fonction pour rechercher la gloire, pour rechercher des gratifications narcissiques. Heureusement, elle n'existe d'ailleurs pas. J'ai accepté cette mission et je propose de la prolonger précisément parce que je pense que je peux être utile au projet qui nous anime et qui nous porte tous.
Et on va parler des différents thèmes qui vont être abordés par le Premier ministre.
Parfois,
non, je sais que c'est difficile. Mais vous savez, c'est la mission de l'ensemble de mes collègues qui est difficile. Moi, j'ai été élu président du groupe parlementaire entre l'affaire Benalla et les Gilets jaunes. Il y avait des contextes plus faciles pour prendre des fonctions que par ailleurs je n'avais jamais exercées et qui, comme vous le dites, m'étaient totalement étrangères 18 mois plus tôt. J'ai pris le job, je l'ai appris, j'ai pas eu tout bon, j'ai pas toujours eu les paroles qu'il fallait, ça je le sais, ça sera... Et d'ailleurs, je connais quelques politiques chevronnés à qui il arrive aussi de commettre des erreurs, c'est le cas de l'ensemble des individus. Je pense que je suis extrêmement utile pour rassembler ce groupe, c'est un enjeu fondamental, pour faire en sorte que dans cette majorité, et notamment dans la relation avec l'exécutif, les choses se passent de mieux en mieux. On a des progrès à faire, de part et d'autre, je m'empresse de le dire. Et je pense que de ce point de vue-là,
je m'adresse aux 300 et quelques députés LREM à l'Assemblée. J'espère que vous avez bien écouté le président du groupe qui est candidat à son renouvellement.
Je pense que le dimanche de la Pentecôte, ils sont sur le terrain avec leurs concitoyens.
Le message est passé. Françoise Fressoz.
Alors, être utile, c'est aussi dire à l'exécutif, on a des priorités, nous les parlementaires. Dans la déclaration de politique générale, les réformes concrètes, le calendrier va être précisé. Quel message avez-vous fait passer au Premier ministre ?
Gilles Legendre.
Alors, il y a un message qui est essentiel, mais qui n'est pas dans une sorte de dialectique et d'opposition vis-à-vis du Premier ministre. On réfléchit ensemble et évidemment en étroite liaison avec le président de la République. Mais enfin, c'est le Premier ministre qui est à la manœuvre dans cet exercice-là. Je pense que l'accélération de la transition écologique est quelque chose de fondamental. Et je le dis pas simplement parce que c'est un facteur d'unité de mon groupe, c'en est un, mais aussi parce que c'est une demande extrêmement forte des Français. Je reprends, je le dis de façon un peu lyrique, mais vous m'en pardonnerez.
Allez-y.
Je considère que vous ne pouvez pas créer de confiance politique sans un rêve collectif. Pendant longtemps, par exemple sur l'Europe, on l'a vu au cours de la campagne, c'était le rêve de la paix. Aujourd'hui, la nouvelle frontière en Europe et en France qui permettra de redonner confiance à nos concitoyens dans l'action publique, c'est l'écologie.
Mais vous êtes lyrique, mais l'écologie, ça a été la taxe carbone sur laquelle vous avez précisément buté. Donc comment vous faites ?
Eh bien oui, on s'est trompé, Françoise Fressaud. Alors ça arrive. Monsieur Lejean. Et quand on se trompe, ce qui est grave, c'est de persévérer.
Donc
nous,
on
persévère pas, on corrige.
Et donc,
nous verrons ce qui sera décidé, mais ça ne sera certainement pas l'élément clé d'une politique écologique et d'une politique de transition écologique. Je pense que, par exemple, l'économie circulaire, qui est un mot technique pour juste dire la lutte contre le gaspillage et la promotion du recyclage, est quelque chose de fondamental. Je serais vraiment étonné que ça ne figure pas au menu du Premier ministre.
Vous avez lu le Parisien ce matin, Yannick Jadot parle d'Emmanuel Macron et voici ce qu'il dit, ouvrez les guillemets, il protège le lobby pétrolier, le nucléaire, les pesticides, les chasseurs. Quand on a son âge, quand on est si jeune, je ne comprends pas que l'on n'arrive pas à s'extraire du vieux monde. Fermez les guillemets. Et c'était donc Yannick Jadot.
Excusez-moi, Ali Badou, je ne peux pas laisser Yannick Jadot dire ça. Ça, c'est l'écologie à la papa. Ça, c'est l'écologie qui recherche. C'est l'écologie qui recherche avant tout les trophées et les symboles. Nous avons une vision très différente de l'écologie. Nous considérons qu'elle doit entraîner une transformation complète du modèle économique, politique et social du pays. C'est quelque chose. C'est une approche globale. Dans l'idée de transition écologique, on regarde les écologistes d'avant ne regardent que le mot écologique. Nous voulons absolument regarder le mot transition. Faire en sorte que cette transformation, elle se fasse, elle soit pilotée dans le temps, dans le respect. C'est pas tout de suite, mais c'est très vite, très profond et surtout très complet.
Mais si vous êtes trompé sur la taxe carbone, comme vous venez de le reconnaître, par quel tour de magie allez-vous aller vers la transition écologique sans que cette transition soit, comme on le dit parfois, punitive pour le porte-monnaie des Français ? Par exemple, comment vous allez aller vers l'incitation à aller vers le véhicule électrique ? C'était ce que vous défendiez il y a un an.
Alors ça, on ne peut pas trouver de meilleur exemple, Jeff Wittenberg, puisque nous l'avons déjà commencé et que ça marche. La prime à la conversion vers des véhicules plus propres, 5 000 euros. La prime à l'achat de véhicules électriques, 6 000 euros. On fait exploser les compteurs en ce moment. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas les classes aisées qui l'achètent. C'est à 75% des personnes qui sont à des niveaux de revenus très modestes. Donc c'est pas une prime pour les riches. C'est pas une prime pour acheter les véhicules électriques à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Et le carburant, M. Legendre, il restera au niveau où il est aujourd'hui. Il doit baisser,
le carburant, il ne vous a pas échappé que si on laisse tomber de côté la question de la fiscalité écologique, il évolue beaucoup plus en fonction des prix du marché qu'en fonction de la taxation. Donc évidemment, nous avons ce problème-là à résoudre, mais nous le résoudrons. Mais vous voyez, là, il y a véritablement un exemple de transition qui se fait positivement.
Karine Bécard.
Alors parlons de la loi bioéthique et avec elle de la PMA. Doivent-elles être adoptées avant les élections municipales ? Est-ce qu'elles correspondent à un marqueur politique important pour la majorité ?
Je ne veux pas que ça devienne un marqueur politique. Précisément, je ne veux pas que ça devienne un marqueur politique. La majorité, La République En Marche, Modem, ne fera pas avec la révision des lois bioéthiques ce que la gauche a voulu faire avec le mariage pour tous, c'est-à-dire décrocher un trophée.
Et pourquoi
pas ? Parce que
les lois bioéthiques touchent à une matière qui touche à l'intime des individus. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons dit que sur ces textes-là, la liberté de vote serait reconnue à nos collègues députés. En revanche, je suis de la dernière fermeté sur le fait que les engagements que nous avons pris dans ce domaine soient tenus.
Mais à quel horizon ?
PMA comprise, évidemment.
Donc, à quel horizon ?
Alors, avant ou après les municipales ?
Aujourd'hui, la chose certaine, c'est que les textes complets, parce que vous parlez de la PMA, parce que c'est l'élément le plus bioéthique.
Non,
mais il y a des choses très importantes qui concernent notamment la recherche des origines, ou les diagnostics génétiques, avec des choses d'une complexité extraordinaire, plus complexe finalement que la seule question de la PMA. Ce texte est quasiment prêt, il sera déposé très certainement au Conseil des ministres avant les vacances, et voté dans un calendrier que le Premier ministre annoncera.
Et donc vous avez parlé avec lui, puisque vous parlez de ça au téléphone avec lui.
Je pense que ça fait partie des priorités sur lesquelles les Français
donc,
nous attendent.
Première lecture avant la fin de l'année.
Il vous l'indiquera. Nous n'avons pas encore ce calendrier. C'est l'objet de la déclaration du politique général du Premier ministre de préciser ces choses.
L'ouverture de la PMA à toutes les femmes, notamment, c'était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. Beaucoup de femmes l'attendent.
Mais bien sûr.
Et elles se demandent, pour certaines, pourquoi vous ne faites que repousser l'examen
parce que,
de ce
parce
texte
que
de
c'est
loi.
Vrai que pendant la première partie du quinquennat, nous avons été très mobilisés par les réformes économiques et sociales qui visaient notamment à accélérer la réduction du chômage, ce qui est le cas. Il y a aussi toujours des priorités, mais qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute chez nos auditrices et chez nos auditeurs, cette réforme sera votée, je m'y engage solennellement.
Est-ce que vous allez exclure la députée La République En Marche, Agnès Thil, du groupe LREM à l'Assemblée? Agnès Thil qui accumule les tweets et les déclaration contre les droits des LGBT. Il y a quelques jours, elle donnait une interview au magazine très conservateur L'Incorrect. Elle parlait d'une communauté homosexuelle, je mets les mots entre guillemets, une minorité s'imposant à tous et venant tyranniser à son tour l'ancienne majorité qui l'opprimait. Il y a au moins deux députés de votre groupe qui ont posé un ultimatum. Ce sera elle ou nous. Que leur répondez-vous?
Alors, je réponds ce que j'ai déjà dit publiquement. Il n'y a rien qui ne soit plus étranger que les propos d'Agnès Thil quand elle occupe ce territoire-là et qu'elle utilise ses sous-entendus, ses allusions, ses...
En plus que des allusions.
Oui, tout à fait. Et je les condamne fermement. Je les ai toujours condamnés fermement. Le mouvement est saisi d'une procédure disciplinaire concernant Agnès Thil. Nous sommes convenus avec Stanislas Guérini qu'il n'y aurait pas deux décisions séparées du mouvement et du groupe. C'est le mouvement qui, en application de ses statuts, va être amené précisément à statuer. Je viens de vous dire le contraire.
Mais c'est vous le boss, c'est vous le président. Si elle ne partage pas vos valeurs, que fait-elle dans votre groupe, enfin, Gilles Legendre?
Et que fait-elle? Non, Ali Badou, c'est pas la peine de vous énerver.
Ah, je m'énerve pas.
On est sur le terrain des valeurs.
Oui, donc, justement.
Vous me laissez terminer.
Elle ne partage pas les mêmes que les vôtres.
C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où on est sur le terrain des valeurs, ça ne concerne pas que le groupe. Cela concerne aussi le mouvement. Est-ce qu'une marcheuse peut professer ce genre d'idée? C'est la question que le mouvement doit trancher.
Les décisions seront prises ensemble.
Gilles Legendre. C'est comme ça que ça se passe.
Vous ne voulez pas trancher. Gilles Legendre, ce n'est pas qu'une question de valeur, elle a eu des mots.
Gilles Legendre,
elle n'a pas seulement exprimé des convictions personnelles, elle a aussi tenu des propos insultants les personnes LGBT.
C'est la raison pour laquelle elle fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
Quand un de mes collègues l'été dernier
vote contre le budget, c'est pas une question de valeur, c'est une question de fonctionnement du groupe parlementaire. Je l'exclus en 2 heures.
Il est viré directement.
Voilà. Parce que ça ne nous concerne que le groupe.
En revanche, je te donne des propos homophobes et vous restez les mois encore.
À partir du moment où l'une de mes collègues tient des propos qui, en effet, violent gravement
et pourquoi
ce qui fait des valeurs, à ce moment-là, ça passe par des procédures beaucoup plus globales et qui respectent, excusez-moi de le dire, aussi le droit de la défense, parce qu'on fonctionne aussi comme ça à La République En Marche. Je vous dis très clairement que cette procédure disciplinaire ira à son terme, mais dans le respect des statuts du groupe.
Sera exclu au terme de cette procédure.
Je ne déciderai pas à la place de la commission qui est en charge de cette procédure.
Donc il est possible qu'elle reste.
Écoutez, mais vous voulez quoi? Vous voulez des tribunaux populaires, Ali Badou?
Vous voulez que ce soit moi qui, dans le cadre du studio, décide tout seul, sans concertation? Je parle de votre groupe.
Mais non. Mais le groupe, forcément, est dépendant d'une décision du mouvement.
Dont acte. Gilles Legendre, vous, personnellement, est-ce que vous pensez qu'elle a toujours sa place dans votre groupe?
Elle enfreint gravement les valeurs du mouvement et du groupe. Cela mérite, à l'évidence, d'être traité au plus haut niveau et d'une manière ferme par les procédures disciplinaires.
Bah, c'est vous le plus haut niveau, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus de vous.
Non, bon, Ali Badou, mais ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Il y a le mouvement. Le mouvement est plus large que le groupe.
Non, mais c'est quand même la deuxième fois qu'il y a une procédure disciplinaire.
On va changer de sujet. Vous ne voulez pas répondre. On attendra
mais je suis fier de ne pas vous répondre, Ali Badou.
Ah ouais.
Parce que je ne pratique pas la justice expéditive.
Non, moi. Mais vous pourriez dire tout simplement vos convictions.
Sauf lorsqu'on ne vote pas le budget, comme vous l'avez reconnu vous-même.
Mais parce que ça, c'est ma responsabilité. Ah oui. Ça touche le fonctionnement du groupe.
Parfois la justice
expéditive. Et ça ne touche qu'au fonctionnement du groupe.
On va s'en tenir là et on va passer à un autre sujet.
Continuons. Réforme des retraites. L'âge de départ à la retraite réel, c'est 62 ans ou 64 ans ?
L'âge constaté ?
Non. L'âge...
Légal.
Légal.
L'âge légal, c'est 62 ans et nous ne bougerons pas.
Mais l'âge auquel on peut partir à la retraite avec tous ses droits, ce sera quoi ?
Eh bien, vous le saurez lorsque nous aurons procédé à la fin des arbitrages. Nous sommes dans la dernière ligne droite des propositions de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire des retraites, qui travaille sur ce dossier depuis quasiment 2 ans.
Vous n'en avez aucune idée ?
Pardon ?
Vous n'en avez aucune idée ?
Si, nous avons quelques idées. Nous avons une première idée qui emporte toutes les autres. C'est que ce problème-là ne trouvera sa résolution que lorsque nous aurons augmenté le volume d'emplois en France. Le président de la République l'a très bien dit quand il a rappelé le fait que l'âge légal ne bougerait pas. Il a dit, un, c'est mon engagement. Deux, il serait hypocrite de bouger l'âge légal alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un volume d'emplois suffisant pour donner aux personnes qui approchent de l'âge de la retraite un boulot suffisamment long pour qu'ils puissent justement travailler et cotiser
Monsieur
plus longtemps. Néanmoins, c'est notre objectif. C'est l'objectif de toute notre politique économique et ça commence à marcher. C'est-à-dire que l'âge moyen du départ effectif est en train de fonctionner. Mais le départ, l'âge légal du départ à la retraite ne bougera pas. En revanche, qu'il y ait, dans le cadre d'une réforme sur laquelle on pourra revenir si ça vous intéresse, qui est la réforme à points, elle se prête parfaitement au fait qu'on puisse avoir des retraites à la carte et qu'on puisse avoir des incitations à travailler plus longtemps.
Vous avez employé le mot hypocrite. Est-ce qu'il n'est pas tout aussi hypocrite de garder ce seuil à 62 ans puisqu'il s'agit, lorsqu'on la prend à 62 ans, d'une retraite au rabais et pour avoir sa retraite à taux plein, il faut travailler jusqu'à 64 ans dans le cadre d'une carrière traditionnelle. Où est l'hypocrisie ?
Jeff Wittenberg, le seul risque de retraite au rabais, comme vous dites, c'est le risque précisément que le déséquilibre entre les actifs, c'est-à-dire les Français qui travaillent, et les inactifs, c'est-à-dire les Français à la retraite, continue de se creuser. Cet équilibre, nous sommes précisément en train de l'inverser. Mmh. Ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Et nous allons plus loin avec la politique économique que nous menons.
Partir à la retraite à 62 ans pour ne pas la toucher à taux plein, quel est l'intérêt ?
Il ne veut pas répondre, Jeff.
Mais parce que pour beaucoup de gens qui ont cotisé, cet âge est un, qui ont cotisé la durée légale, la durée de cotisation pour avoir le taux plein, cet âge signifie quelque chose.
Françoise.
Il signifie absolument quelque chose. Et doit continuer de signifier quelque chose.
Financement de la dépendance, est-ce qu'on va vers un nouvel impôt ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas, ça n'est pas l'objectif. Nous avons pris un engagement très clair devant les Français, c'est de baisser les impôts. Et non seulement nous avons pris cet engagement, mais nous avons commencé de le réaliser. Il y a d'autres moyens de faire. Il y a des réallocations, il y a des façons de financer, il y a une manière de mobiliser l'épargne privée sur ce dossier-là. Ça, la dépendance, vous voyez, c'est un très bon exemple. C'est un des sujets sur lequel notre groupe a décidé de s'investir massivement et de faire en sorte que ce ne soit pas simplement le projet du gouvernement qui nous soit soumis, mais que ce soit un projet que nous co-construisions ensemble.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des assurances privées pour la dépendance ?
Ça peut faire partie du dispositif, mais le socle doit rester un socle de solidarité.
Autre dossier.
C'est absolument essentiel.
Pardonnez-moi. Autre dossier, Karine. La réforme constitutionnelle, est-ce qu'elle a une chance d'aboutir ?
Alors ça ne dépend pas de nous, Karine Bécart. On est très clairement dans un schéma où il y a 3 volets sur la réforme institutionnelle. Un qui concerne la proportionnelle et la limitation dans le temps du cumul des mandats qui peut ne dépendre que de la majorité Modem, Républicain, Marche à l'Assemblée et les 2 autres qui ont besoin d'un accord du Sénat et 2 autres auxquels les Français attachent la plus grande importance. L'introduction d'une démocratie, ce qu'on appelle délibérative, qui permette de donner plus souvent et plus facilement la parole aux Français et le fait qu'on réduise le nombre de parlementaires, députés et sénateurs. Nous avons besoin de savoir vite ce que veut le Sénat. Nous ne devons pas rentrer dans un jeu de chats et de souris.
Les Français
ne le comprendraient
comment
pas.
Comment vous le saurez, ce que veut le Sénat ?
Monsieur Gérard Larcher, le président du Sénat, dit qu'il croit à cette réforme, qu'il la veut, qu'il nous apporte des preuves tangibles qu'on est capable d'aller au bout de cette réforme.
Et si vous ne les avez pas ?
Eh bien, nous verrons. Chacun prendra ses responsabilités.
Par exemple, est-ce que vous pourriez faire passer la proportionnelle, qui est une loi ordinaire, si les autres volets de la réforme n'aboutissent pas ?
au stade actuel, tous les schémas sont possibles, nous prendrons nos responsabilités, mais nous veillerons à ce que ceux qui éventuellement souhaiteraient faire échouer des réformes que les Français attendent de façon aussi unanime, prennent aussi leurs responsabilités.
Parmi les réformes et les textes législatifs qu'il faut faire passer en urgence, est-ce que la loi sur Notre-Dame, la reconstruction de Notre-Dame, sera votée avant l'été ?
Très probablement.
Donc la PMA, ça peut être repoussé. En revanche, Notre-Dame, il faut voter ça de toute urgence.
Ali Badou, le vote en deuxième lecture de la loi de Notre-Dame, c'est probablement, allez, une journée.
Une journée.
Les lois bioéthiques, c'est un débat qui va prendre plusieurs semaines et qui doit prendre plusieurs semaines. Mais n'essayez pas d'introduire le doute dans l'oreille de vos auditeurs. Les lois des révisions bioéthiques seront votées par cette majorité et peut-être d'ailleurs au-delà de cette majorité.
Juste une petite question sur le travail parlementaire. Quand on voit l'encombrement effectivement des textes, tous ceux qu'on vient de lancer comme ça là pour voir vers où on peut aller, vu l'encombrement, quel travail réel complémentaires vont pouvoir apporter les députés de la majorité? On a vraiment le sentiment qu'il va falloir aller vite et que finalement, ça ne sera qu'une chambre d'enregistrement.
Alors ça, jamais.
Ah bon, comment alors allez-vous
jamais faire une chambre d'enregistrement. Ça, non seulement,
il va falloir aller très vite.
Non seulement ça n'a pas été le cas depuis deux ans, mais ça sera encore moins le cas. Mes collègues souhaitent au contraire qu'on progresse dans la discussion, dans la co-construction, dans la collaboration avec l'exécutif. Eh bien, ça suppose précisément...
Dans le contrôle aussi de l'action du gouvernement ?
Absolument.
Alors justement, vous êtes membre de la commission défense. Vous êtes membre de la commission défense à l'Assemblée. C'est un cas pratique, justement, et ça permettra de répondre à Karine. Vous êtes membre de la commission défense à l'Assemblée. Le journal Le Monde raconte que 36 députés macronistes avaient voulu créer une commission sur les exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite en avril 2018. Est-ce que vous êtes de l'avis qu'il faut aujourd'hui pouvoir obtenir des réponses plus précises du gouvernement sur ce dossier des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, des armes qui auraient été utilisées dans la guerre au Yémen contre les civils?
La commission d'enquête n'est probablement pas le bon véhicule pour mener ce genre de travail.
Pourquoi?
Parce qu'il y a énormément de dimensions dans ce dossier qui sont d'ordre diplomatique et de relations internationales. Or, le Parlement, dans ce domaine, a des compétences limitées et que, deuxièmement, beaucoup des sujets qui ont trait à cette affaire-là sont frappés. Oui, mais attendez, je vois bien l'allusion et ce que vous voulez insinuer. Mais néanmoins, il y a des sujets qui relèvent de la souveraineté du pays, du rôle essentiel que doit jouer l'exécutif.
Et donc pas de la représentation nationale.
Eh bien, non, je dis qu'il y a d'autres moyens de traiter ce sujet et nous allons nous y attaquer.
C'est quoi les autres moyens ?
Françoise.
C'est des missions d'information, c'est le rôle que peut jouer la commission de la défense elle-même dans ce travail, la commission des affaires étrangères. Nous ne sommes pas du tout pour quelque omerta que ce soit sur ces sujets, mais la commission d'enquête,
pour l'instant, n'a pas été jugée comme le véhicule. Gardez les yeux fermés, vous n'avez pas envie de savoir, si le gouvernement a menti aux Français.
Non, pas du tout. Mais attendez, la question n'est pas du mensonge du gouvernement. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est en effet la question des pratiques des exportations d'armement, qui sont par définition un sujet sensible. Mais qu'on ne fait pas par plaisir, si vous voulez. Il y a des données diplomatiques et des données de relations internationales qu'il est de notre responsabilité, majorité et encore plus exécutif, d'assumer.
Un tout autre sujet, vous êtes député de Paris, vous êtes, contrairement à au moins trois de vos collègues, vous n'êtes pas candidat à la candidature à la mairie de Paris.
Sauf si vous
nous l'annoncez ce matin, mais justement, en fonction de cet état des lieux, est-ce que ce n'est pas un magnifique cadeau que vous êtes en train de faire à la maire sortante, Madame Hidalgo? On ne sait pas qui sera le candidat du parti majoritaire dans la capitale, et j'ai une question corollaire, vous savez qu'il y a une commission d'investiture dans votre parti, et les concurrents de Benjamin Griveaux, le favori entre guillemets, doutent de son impartialité à cette commission, car y figure notamment Julien de Normandie, un ministre très ami de Benjamin Griveaux.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Gilles Lejean? Si on commence à faire rentrer les critères des amitiés, compte tenu du fait qu'on est tous du même mouvement et que pour beaucoup d'entre nous, on y est depuis la première heure, que nous avons mené des batailles ensemble, on est tous amis.
C'est eux qui le disent.
Je sais bien. Attendez, il y a une compétition électorale, elle est saine. D'accord. Il est normal que de temps en temps, elles prennent des allures éventuellement un peu vives, peut-être même un peu trop vives. Moi, je serais très heureux que les choses s'apaisent au sein de la compétition parisienne. La Commission nationale d'investiture prendra sa décision candidat. Elle le prendra quand elle décidera de prendre.
C'est ça le sujet. Est-ce qu'il faut avoir un candidat avant l'été pour être opérationnel en septembre ou est-ce qu'il faut attendre un peu plus?
Cela résultera des discussions de la Commission nationale d'investiture, notamment avec les candidats, puisqu'elle va évidemment tous les auditionner et la décision sera prise dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours.
Benjamin Griveaux est le meilleur candidat?
Je ne suis pas là du tout pour distribuer les bons et les mauvais points.
Vous êtes un élu de Paris, que je sais,
j'ai une référence quand même.
Vous connaissez Benjamin Griveaux.
C'est un ami, c'est un très cher ami.
Les autres candidats.
Cédric Villani, Mounir Majoubi, Hugues Granson sont dans mon groupe. Ils sont tous dans mon groupe et je ne commettrai pas l'erreur en tant que président de groupe de rentrer dans l'une ou l'autre des écuries.
Mais comme élu parisien,
moi, je dirige le Haras. Je rentre pas dans les écuries.
Vous n'avez pas à prendre position.
Je sais que le jour où notre candidat sera désigné,
par Emmanuel
alors là,
Macron.
Il n'y aura plus de président de groupe dans la compétition, il y aura le député de Paris qui s'engagera à corps perdu dans cette bataille municipale afin que nous la gagnions. Et je suis sûr qu'il y a,
le Paris
dans
de la
les
République
noms
en Marche
cités,
serait différent de celui d'Anne Hidalgo ?
Pardon ?
Le Paris de la République en Marche serait-il différent de celui d'Anne Hidalgo ?
Ah ça, je vous le garantis, oui. Et j'écoute ce que disent l'ensemble des candidats à l'investiture et je suis absolument rassuré sur le fait que si l'un d'entre eux, celui qui sera désigné, mènera une politique en assez forte rupture. Pas d'ailleurs toujours quant aux objectifs et aux mesures. Je prends l'exemple écologique.
Dans la gouvernance,
il y a plein d'objectifs écologiques de la maire de Paris que nous pouvons partager. Mais dans la manière de gouverner le pays, écoutez les Parisiens. Ils veulent une autre manière d'être gouvernés. Une toute autre manière de gouverner. De ce point de vue-là, ils sont le miroir des Français. Nous en avons parlé au début de cette émission. Il faut gouverner différemment. Et c'est encore plus exigeant dans une municipalité où les questions de proximité sont essentielles.
Françoise.
Gérald Darmanin suggère que les listes communautaires soient interdites aux élections municipales. Vous êtes pour ou contre ?
Pour l'instant, nous n'en avons pas discuté de cette question. Moi, je constate que ces sujets-là sont des sujets extrêmement inflammables dans l'opinion et qu'à chaque fois qu'on les ouvre,
il vaut mieux pas s'en saisir.
Dans certains cas, il faut s'en saisir. D'ailleurs, quand nous avons eu à traiter des questions d'immigration, et peut-être aurons-nous encore à en traiter, quand nous avons des problèmes de laïcité, le président de la République a d'ailleurs annoncé que des initiatives seraient prises dans cette direction, sur ces domaines. Le Premier ministre sera peut-être amené à s'exprimer là-dessus lors du discours de politique générale. Mais ce que je sais, c'est que sur ces sujets-là, et ça je le vis comme président de groupe, vous n'avez rien de tel que de créer le trouble, le désordre et la tension en y rentrant d'une manière, partielle.
Il reste 2 minutes. Karine Bécart.
Comment est-ce que vous avez trouvé les premiers pas de Nathalie Loiseau, qui a été la tête de liste aux élections européennes pour La République en Marche ? Comment est-ce que vous avez trouvé ses premiers pas à Bruxelles ? Elle s'est fâchée avec la plupart de ses partenaires de la DLE et elle a sérieusement compromis, j'ai l'impression, ses chances de devenir la patronne du futur groupe central sur lequel souhaiterait vraiment s'appuyer le président Macron.
Le temps passe.
Visiblement, elle sait gérer les dossiers, mais est-ce qu'elle sait être une politique ?
Alors, que Nathalie Loiseau soit une politique, ça, je n'en ai jamais douté. Elle est dans une négociation compliquée. Les négociations à Bruxelles, c'est largement aussi compliqué, voire plus que les négociations à Paris. Je pense qu'elle
Elle multiplie les impairs quand même, apparemment.
Non, elle multiplie ce que vous jugez être des impairs. On est dans une négociation, on est dans des rapports de force. On a tous l'objectif d'obtenir le même résultat, c'est-à-dire ce groupe central de 107 ou 108 députés européens. Moi, ce que je sais pour ce qui me concerne, c'est que Nathalie Loiseau et moi-même sommes déterminés à une chose qui n'a jamais existé, c'est créer un lien structurel, permanent, constant entre les députés de la majorité à Bruxelles et les députés de la majorité à Strasbourg et les députés de la majorité à Paris.
Avant de rendre
l'antenne. Cela manque aujourd'hui au paysage et nous allons nous y atteler dès que précisément que les choses se sont clarifiées.
Françoise.
À Strasbourg.
Une question d'actualité sur la situation aux urgences, au fond, qui symbolise assez bien votre action. Vous faites des réformes de fond, mais qui prennent du temps. Et en attendant, vous avez des situations d'urgence. Est-ce que Agnès Buzyn n'a pas été un peu légère sur ce dossier ? Est-ce qu'elle n'a pas sous-estimé l'ampleur de la crise des urgences dans les hôpitaux ?
Alors, la crise des urgences revêt une dimension très forte, très symbolique, qui interpelle tout le monde, parce que tout le monde est patient potentiel des urgences. Revenons les choses à leur dimension, et ce n'est certainement pas pour sous-estimer la difficulté, elle concerne encore assez peu de services des urgences, hein. C'est une petite minorité. Néanmoins, Agnès Buzyn est parfaitement déterminée à le traiter, elle a été allée au congrès des urgences, elle a fait un certain nombre de propositions, elle a nommé un de mes collègues, Thomas Meynier, une mission pour trouver les solutions. Ce sujet-là est en haut de sa pile, il est traité.
Merci Gilles Legendre, vous êtes pour Nadal ou pour Tim ?
C'est du tennis.
Pour Nadal. Je suis inconditionnel de Nadal.
Bon, les amis de Roger Federer jugeront. Merci à Alexandre Gillard.
C'est comme ça.
Et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Merci Gilles Legendre. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.